marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire nous aide à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
Le témoin de ce vendredi, c'est Carlo Ossola, professeur au Collège de France hors les murs.
Allez, on commence par votre rencontre. Ça s'est passé comment, Jacques Ralite?
Un beau jour, j'ai reçu un coup de téléphone, donc de Carlo Ossola, et il est venu me voir au Sénat, et il m'a dit, on a envie de venir à Aubervilliers, dans ces banlieues, dont on dit tant de mal, hein, et tant de fausses choses, et quand elles sentent que quelqu'un vient les rencontrer, non pas pour dire, je sais, voilà, hein, mais j'ai un savoir d'ailleurs ouvert. Et ça va aux gens aussi de banlieue, voyez.
Carlo Ossola, c'est avec Jacques Ralite le cofondateur des leçons du Collège de France à Aubervilliers. Elles sont maintenant prolongées à Moulins, dans l'Allier. Elles sont restées fameuses, notamment celles que Jean-Pierre Vernant, à la veille de sa mort, donna sur Ulysse. Ulysse, c'est aussi un exemple constant pour Carlo Ossola, notre troisième millénaire, dégorgeant de mémoire, ne sachant plus l'absorber, reculant alors qu'il croit avancer, a besoin de mythes qui tiennent encore ensemble, passé et présent. Ulysse, au long de ses tribulations, a engrangé beaucoup de connaissances, mais au final, il revient à Ithaque et retrouve femme, fils, chien, vieux lit. Son voyage confirme l'origine. Il va pouvoir vivre en repos dans sa maison, entouré des siens, dans la douce palpitation de l'amitié qui n'est pas celle des passions. Mais aujourd'hui, peut-on encore croire avoir reçu un lieu en héritage? Voici une rencontre que j'ai eue à Aubervilliers. C'était non loin du métro Front Populaire, à deux pas du quartier capverdien et du quartier chinois. Les métropoles juxtaposent ainsi les espaces géographiques. Va être construite ici la gigantesque bibliothèque du campus Condorcet. Est déjà construite une maison des sciences de l'homme. J'attends devant la porte en lisant. S'approche un jeune Africain qui, lui, n'arrive pas à déchiffrer le long texto qui s'est inscrit sur son téléphone portable. Il me demande aide. Il s'agit d'une invitation à rejoindre une de ces grandes assemblées évangéliques qui se tiennent le dimanche plein Saint-Denis. Sans doute, il y entendra dire qu'il faut respecter la Bible à la lettre et peut-être que la terre est plate. Les métropoles sont ainsi faites que s'y côtoient sans se parler des passants qui ne sont pas contemporains les uns des autres. Des siècles séparent mon interlocuteur d'Aubervilliers des lecteurs de la Maison des Sciences de l'Homme à la porte de laquelle il se tient. Les Ulysses modernes doivent circuler entre les siècles et entre les espaces disjoints. Ils sont dans une situation plus inconfortable encore que leur modèle, où retrouver des lieux communs. C'est avec cette question au cœur que Carlo Ossola est parti en voyage en Europe.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour Carlo Ossola.
Bonjour monsieur.
Ils ont dû être étonnés à Aubervilliers et maintenant à Moulins. Professeur de littérature moderne dans l'Europe néo-latine.
Oui, oui, exactement.
C'est supposé que chacun connaisse l'enchaînement du latin à l'italien et au français.
Le choix de cet intitulé de chaire, c'est l'un des privilèges du Collège de France, c'est se présenter avec un projet, et le projet comporte un intitulé qui peut changer constamment, il n'y a pas une continuité de chaire. Eh bien, j'ai préféré ne pas me mettre du côté de la tradition des langues, les langues romanes, mais plutôt du néo-latin, pour la bonne raison que Erasme, qui fut l'un des pères de l'humanisme européen, était un Hollandais qui n'était pas de langue romane, mais qui a parlé toute sa vie le latin. C'est pour montrer qu'en réalité, il faut trouver, par le biais du langage, par le biais de points communs, vous avez évoqué tout à l'heure ces lieux communs, il faut trouver des points de rencontre qui peuvent être de la langue, qui peuvent être de l'imaginaire, qui peuvent être aussi de la nourriture. Enfin, en tout cas, il faut passer le stade, je dirais, naturel.
Alors, on a deviné que vous étiez italien. Je voulais qu'on s'arrête un instant, tenez sur un de ces personnages de la littérature néo-latine qui a pratiqué les langues de son pays. Il était fils d'un marchand toscan, mais aussi d'une française. Et puis le latin, de plus en plus d'ailleurs, c'est Boccace. Alors Boccace, qu'est-ce qu'il dit vous allez voyager en Europe. Qu'est-ce qu'il dit du nom d'Europe ?
Ah, c'est une parabole élégante et formidable. Il dit que cette fille qui fut enlevée par Jupiter transformée en taureau...
Alors, c'est la fille d'Agénor, elle a été enlevée par Jupiter.
Voilà. Eh ben, on la trouve plus. Alors, Agénor envoie ses ministres chercher cette fille en leur disant, d'après Boccace, que s'ils reviennent sans elle, ben, ils auront la prison ou la tête coupée. Ça signifie que, après réflexion et n'ayant trouvé Europe nulle part, la plupart d'entre eux restent dans le pays où ils avaient été envoyés. Ce qui fait que, d'une certaine manière, nous pouvons comprendre l'Europe au-delà de l'Europe en pensant à tous ces gens européens qui ont émigré pour des raisons d'utopie, de religion, de persécution. C'est comme ça que nous trouvons aux États-Unis New Orleans, c'est-à-dire la Nouvelle-Orléans, New York, c'est-à-dire Nouvelle-York, etc. Et je ne sais plus combien de Paris y a-t-il aux États-Unis, entre 6 et 7.
Mais on ne la trouve pas. Ça veut dire qu'elle est de fortune changeante, qu'on est toujours incertain quant au récit qu'on fait d'elle. C'est le possible plus que le certain, Europe.
Oui, alors l'Europe est certainement un possible qui va au-delà de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est aussi une donnée de fait qui a 2000 ans d'histoire, plus que cela, et qu'on veut nous cacher aujourd'hui. C'est l'un des méfaits, du temps présent, c'est-à-dire il faut bâtir l'Europe. L'Europe est déjà bâtie depuis longtemps, il faut simplement reconnaître qu'il y a une unité profonde des civilisations et à partir de la Méditerranée jusqu'à la Ligue hanséatique, on est dans le même monde.
Encore faut-il avoir de la mémoire et peut-être y a-t-il rupture de la mémoire, Carlo Ossola. Votre mémoire de l'Europe, avant de raconter le voyage que vous avez fait il y a quelques mois, votre mémoire de l'Europe, elle commence, vous êtes tout petit, vous avez 10 ans, et vous entendez à la radio italienne, des échos de la révolution hongroise, quand les Hongrois se sont soulevés contre la tutelle soviétique. Faute de radio italienne, écoutez ce qu'on disait à la radio française en 56.
Budapest, Radio Kossuth Libre, 4 novembre 1956, 4h20 du matin. Le président Imre Nagy s'adresse au peuple hongrois.
Vous voulez me traduire au fur et à mesure? Aujourd'hui, dans ce matin, les Russes ont attaqué notre capitale avec l'intention d'enverser le gouvernement. Nos troupes sont en combat. Le gouvernement est à sa place. Je sais ça au peuple et à la monde.
Attention, attention. Ici la Fédération des écrivains hongrois. À tous les écrivains du monde, à tous les savants, à toutes les associations d'écrivains et académies, à l'élite intellectuelle du monde entier, nous demandons aide et secours.
La radio des insurgés hongrois a diffusé ce matin à 7h10 l'appel suivant. Écrivains, savants du monde entier, les écrivains hongrois s'adressent à vous, à leur suprême, au nom d'une nation massacrée. L'heure a sonné où les paroles ne suffisent plus. Il faut des actes. Faites quelque chose. Agissez. Secouez l'inertie horrible de l'Occident.
François Mauriac. Vous avez conscience maintenant que le sentiment de l'Europe, vous l'avez eu très jeune, à ce moment précis.
Oui, j'ai malheureusement pas eu la voix de François Mauriac, qui est très émouvante. Mais j'ai eu la conscience, comme beaucoup d'autres plus âgés que moi, que c'était une patrie commune qui était piétinée. Et c'était une question de liberté, une question d'avenir. Et si j'étais petit, évidemment, j'avais pas une profondeur historique pour juger. Mais il y avait l'histoire de famille. Je suis né en 46, je suis l'un des fils de la paix. Mais mon père avait fait, comme beaucoup d'entre autres de sa génération, la résistance. Donc on ne pouvait plus admettre qu'il y ait encore des massacres et encore, je dirais, de perte de dignité. Mais ce processus a été long. Je pense notamment à Italo Calvino, l'écrivain, qui avait entendu ce message et qui a commencé son examen de conscience de jeune communiste et qui a porté en 63 à ce livre magnifique de critiques et de propositions d'une société nouvelle qui serait plus fondée sur, je dirais, simplement le respect de loi, mais par un supplément d'âme qui, en effet, il l'appelle l'amour n'a la limite que celle que nous lui donnons.
Alors, vous avez gagné en profondeur historique depuis, Carlo Ossola, des études, professeur en Suisse, professeur en Italie, professeur au Collège de France maintenant. Et l'idée vous vient de faire un voyage en Europe pour le compte d'un journal dont je vous laisse dire le nom parce qu'il est si poétique.
Oui, il sort le 24 heures, le soleil 24 heures.
16 étapes, il y aura d'ailleurs Budapest, enfin la partie anciennement ottomane de Budapest. Et puis vous citiez Erasme. Erasme sur lequel vous avez écrit. Erasme qui est un exemple à la fois de mobilité, mais d'esprit de paix aussi, de recherche de tranquillité. L'homme est un animal sans griffes, ni crocs, ni bec, avec aucun des organes donnés par la nature pour blesser.
Oui, c'est l'un des grands cris de paix qu'on retrouve constamment chez Erasme. Il dit, l'homme c'est un animal un peu exceptionnel, il n'y a pas chez lui d'organes pour blesser, il est nu, il grandit très lentement, il a besoin jusqu'à un âge assez important d'avoir d'aide constante, la maman, les parents, ils marchent très difficilement. Enfin, ce n'est pas fait pour faire des agressions, mais pour recevoir une paix réciproque.
Alors, dans les 16 étapes que vous avez définies, il faut que vous trouviez Erasme. Mais Erasme, il se meut avec rapidité. D'ailleurs, souvent, il évoque la rapidité de toutes les transformations dans les territoires de notre mémoire.
Ô jours heureux de l'existence, comme à la dérobée, vous avez disparu. D'une fuite échappant à mes sens, comme d'un glissement ailé, combien furtivement vous avez pris l'envol. C'est ainsi que s'échappent les songes vagabonds de la nuit silencieuse, sitôt que le sommeil s'envole, et qui ne laissent rien d'eux-mêmes que regrets et vaines angoisses. Ainsi, teintée de pourpre en sa fraîcheur, la rose qui tantôt rougeoyait, vieillit au souffle léger de l'austère. Car c'en est fait, pauvre de moi. Je me revois bambin, jouant au noix. Puis c'est l'adolescent enflammé par les lettres, l'explorateur des combats et des chemins des philosophes.
L'inauguration officielle de la maison d'Erasme, qui groupe des merveilles d'art ancien, a eu lieu en présence du duc et de la duchesse de Brabant. Erasme, Européen d'avant la lettre, fut un des plus illustres penseurs de la Renaissance. Il visita l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, résida à Paris et professa à l'Université de Louvain. Il vécut plusieurs années à Anderlecht, où sa maison patricienne vient d'être restaurée.
Ça y est, vous l'avez saisi, Carlo Ossola. Il est à Anderlecht à partir de 1521. Et vous vous y précipitez. Enfin, votre genre, c'est plutôt « acte-toi lentement ». Vous arrivez à Anderlecht.
Oui, la maison est très belle, il faut dire. Elle conserve la fascination d'un lieu de retraite, pas loin du béguinage aussi. Mais c'est vrai qu'autour, la vie du XXe siècle s'épanouit et on a tout de suite un élément de comparaison entre ce lieu de retraite, avec encore les jardins pour penser, les jardins pour méditer, les jardins pour se promener, comme les anciens cloîtres. Et puis, au-delà de la rue, je dirais la vie est le chaos de toutes les banlieues du monde.
Oui, parce que vous insistez là-dessus. On en parlait en citant Aubervilliers, un polyèdre avec des gens qui ne se côtoient pas et qui peuvent difficilement se comprendre. Là, on est dans l'agglomération bruxelloise. Et vous remarquez qu'à un quart d'heure à pied du lieu d'Erasme, l'homme de paix qui essayait de prévenir les guerres de religion, à quelques arrêts de tram,
il y a Molenbeek.
Molenbeek, c'est-à-dire le lieu d'où venaient les gens qui ont malheureusement lancé ce carnage à Paris, et qui est dans notre esprit. Alors, la question se pose de comment vivre dans un temps et qui est si tendu et je dirais si incongru. En même temps, on a un lieu de paix, un lieu de guerre, mais on prend le même tram, on partage les mêmes heures, les mêmes moyens publics. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est le questionnement que je me suis posé en choisissant, comme dans le cas Molenbeek, Anderlecht, des lieux d'Europe tout petits, mais qui puissent en même temps nous montrer la pluralité. Dans chacun de ces lieux, il y a des signes, des témoignages de traditions différentes, et en même temps, savoir que tout cela doit être reconstitué à chaque jour, parce que nous vivons dans des temps où la paix n'est pas donnée, il faut la défendre, la construire chaque jour.
Le son des 16 étapes de votre voyage en Europe qui ont été publiées après le journal italien qui s'appelle
Il Sole 24 Ore.
Aux presses universitaires de France, fable d'identité, retour en Europe.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Si nous avons choisi Carlo Solas, concerto pour piano numéro 27, Köchel 595 de Mozart avec Émile Guilels, c'est qu'il illustre pour vous une autre leçon de votre voyage en Europe. Nul n'est sûr de la terre qu'il a reçue en héritage. Parce que ce morceau fait écho à des souvenirs de conversations que vous avez eues à Venise avec des amis exilés.
Oui, en effet, c'était au moment où je dirigeais les cours d'été de la Fondation Cini à l'île de San Giorgio Maggiore.
Pas mal.
Oui. Eh bien, un soir, je dînais avec deux conférenciers et la conversation ne démarrait pas. Et pourtant, il y avait tous les éléments possibles pour que ça se présente bien, pour ainsi dire.
Et ça a été quoi l'élément déclencheur?
Eh bien, c'était un bateau qui passe dans le canal de la Giudecca, dont le nom est Odessa. Et à ce moment-là, Jacqueline Starobinski dit « Mais Odessa, c'est ma ville natale, et Salomon Reznik également. » Et à partir de là, il y a eu une reconstitution de mémoire personnelle et de mémoire collective, à savoir que la géographie terrestre, il faut toujours la conjuguer avec la géographie mentale des arts que nous avons reçus. Et pour moi, Odessa reste une espèce de mythe d'une Europe encore à construire, mais que nous avons déjà. Parce qu'à chaque fois que nous entendons les grands interprètes qui viennent en bonne partie d'Odessa, y compris les grands-grands-parents de Bob Dylan qui venaient de là-bas. Donc vous voyez quelle richesse. Alors pour moi, c'est une espèce de porte de refuge toutes les fois que ce qu'on appelle la réalité ne marche pas. Il y a une autre réalité, un autre degré qui est très unie et très forte.
Combien de personnes et d'artistes en particulier sont partis d'Odessa? Puisque on parle de lieu de partance, il en est un autre que vous évoquez dans votre voyage en Europe, Carlo Ossola, c'est Belém. Belém, à Lisbonne, la tour, où a été signé d'ailleurs le traité de Lisbonne de l'Union européenne en 2007. Vous pouvez nous la décrire, cette tour ?
Oui, c'est une tour qui apparaît soudainement, presque, je dirais, pas au milieu, mais au bord du fleuve. Et cette tour est la tour d'où, théoriquement, devaient partir les armées. Mais Saramago nous dit qu'elle est tellement belle, tellement élégante, qu'il imagine, et moi également avec lui, qu'elle ne servait pas pour préparer des armées, mais pour accueillir dans la beauté.
Alors la tour de Belém, maison pour le repos et la diminution des passions, mais ça reste une maison de partance.
Fernando Pessoa, message. Le Cinquième Empire. Pitoyable, celui qui vit à la maison, tout satisfait de son foyer, privé d'un songe qui, en déployant ses ailes, fasse rougeoyer plus encore les quelques braises d'un coin de feu bientôt abandonné. Époque sur époque s'en vont disparaissant dans le temps qui s'avance en cortège d'époque. Être homme, c'est ne pas se contenter. Ah, que les forces aveugles soient domptées par la vision que prodigue l'âme. Grèce, Rome, chrétienté, Europe, toutes quatre s'en vont vers où s'en vont tous les âges. Qui survient pour vivre la vérité de la mort de Don Sébastien ?
Don Sébastien, le roi du Portugal, qui en 1578 essaye de convaincre ses conseillers dubitatifs de la nécessité des projets d'expansion en Afrique, il va y trouver la mort.
Oui, j'ai été très frappé par le poème de Pessoa, qui se définissait un sébastianiste sceptique et un sceptique sébastianiste, à savoir que il faut avoir toujours un élan utopique et en même temps ne pas transformer l'élan en volonté de conquête. Et évidemment, le sébastianisme était en même temps un rêve d'une société parfaite, l'empire qui aurait porté la paix universelle, mais on peut lire derrière, évidemment, aussi les conquêtes coloniales qui se sont suivies du XVIe au XIXe siècle, un peu partout. Alors, ce qui est beau dans le texte de Pessoa également, c'est que l'exigence utopique va au-delà du réalisme. Et la beauté, c'est que la défaite, comment dirais-je, d'une certaine manière, donne raison au réaliste, mais en même temps purifie l'intention du roi au-delà du matériel. Il est dans une espèce de grand rêve.
Dites-moi, il vous arrive, Carlo Ossola, dans vos 16 étapes, fable d'identité, puf, d'aller en France ?
Oui, bien sûr, je commence même après Anderlecht par Germigny et Saint-Benoît-sur-Loire et puis Fréjus.
Ah, Fréjus, dans le Var, qui conserve tous les signes d'une cité romaine. On sait que sa municipalité est passée au Front National. Une mosquée, prévue de longue date, voyait à ce moment sa construction s'achever. Le maire, Front National, tente d'empêcher son ouverture. Une fois qu'elle est ouverte, il tente de la faire détruire. Voici Julie Gacon dans une excellente émission de France Culture qui s'appelait « Sur la route », qui cherche la dite mosquée nouvelle. Et elle s'adresse ainsi à son réalisateur impavide.
On devait aller voir la mosquée de Fréjus, celle dont les travaux semblent poser des problèmes à certains. Eh ben on y est, devant la mosquée de Fréjus. Regarde. C'est pas vraiment celle qu'on cherchait, mais elle est belle. Construite sur son petit promontoire, entourée de pins parasols, avec la mer au loin. Elle fait penser un peu aux mosquées du Niger et du Mali. Tu sais, celles qui sont construites en pisé, couleur rouge-ocre. Puis elle a les mêmes tours, avec des pics dans les murs. Elle date pas d'hier, celle-là, en revanche. Hein. 1930, c'est l'armée française qui l'avait construite pour les soldats de confession musulmane qui stationnaient à Fréjus, comme les tirailleurs sénégalais. Bon, alors, elle est complètement désaffectée aujourd'hui, grillagée, cadenassée. Mais elle a dû être ouverte au public, se visiter. Parce qu'il y a une petite guérite, là, accueil. Et t'as vu, ils ont laissé le panneau accueil amphithéâtre romain. Non mais...
Il faut être Julie Gacon ou vous, Carlo Ossola, pour penser à cette mosquée Missirie délaissée.
Oui, d'abord, elle existe toujours, elle est très belle, il faut la visiter. Visiter avec le sens d'un passé qui est habité par des rêves, par ce colonel Mademba qui voulait que les gens venant de loin, d'Afrique d'abord, et, mais il y avait aussi la pagode pour les gens venant d'Indochine, puissent retrouver l'air de leur village.
Ah, quand vous dites les gens, c'est les soldats des troupes coloniales.
Oui, c'est ça, exactement.
Soyons clairs.
Et voilà. Et retrouver l'air de leur village, je me demande combien de fois nous sommes capables aujourd'hui, avec les migrants, de faire retrouver l'air de leur village. C'est une question qui montre bien que nous sommes en train de régresser. Et nous repoussons les gens comme s'ils n'avaient pas de droits humains.
Et sans même connaître, c'est toujours une affaire de perte de mémoire, ce qu'était leur tradition, par exemple, religieuse. S'il fallait choisir pour finir, Carlo Ossola, ce parcours, quelques images, vous dites l'importance des arts, quelques images issues des arts. Ravenne, Negrentino, une fresque presque effacée de l'église de Saint-Pierre de Brancion, en Bourgogne. Et toujours un peu la même image, les mains.
Oui. Oui, les mains ouvertes. Les mains ouvertes, là, c'est particulièrement émouvant à Mystra, en Grèce, et à Brancion, parce que du visage, notamment de la Vierge, on ne voit que ses mains grandes ouvertes. C'est l'accueil, c'est la miséricorde. C'est aussi le signe qui nous fait appel aujourd'hui. Il y a les barbelés, et au-delà des barbelés, il y a toujours dans tout rapport photographique des mains ouvertes qui demandent, qui désirent être accueillis et malheureusement qui se blessent dans les barbelés. Alors, pour moi, c'est un signe profond aussi de la rémission humaine contre toute violence.
Et à Reggio, Reggio de Calabre, à Kouros, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un Kouros, enfin qu'un capot de main là. Parce qu'il n'a presque plus de bras.
Oui, oui, oui. Ben, et là, à Reggio, il y a d'abord, il faut le rappeler, les deux bronzes de Riace. Et puis, donc, c'est Riace. Une magnifique statue de garçon. Ce Kouros, on ne sait pas s'il est prêt à être, à se mettre en question.
C'est un jeune homme.
Un jeune homme, oui. Et donc, d'être soumis à une épreuve, ou bien s'il a franchi cette étape, il est libéré, il avance comme gagnant. Ce qui montre bien aussi que nous sommes toujours dans un état qui est entre deux. Le passage obligatoire par un chemin étroit et l'espoir d'en sortir.
Merci à vous, Carlo Ossola. Votre retour en Europe, fable d'identité aux presses universitaires de France. Et puis beaucoup de vos livres, par exemple Erasme et l'Europe au Félin, enfin tout détail, sur notre site. Pierre Faucillon à la technique, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard pour la préparation, la réalisation, c'était Audrey Ripouille.